Il y a une question qui est posée dans le livre du Deutéronome aujourd'hui. C'est celle-ci. Quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances, les lois, soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? C'est Moïse qui pose la question au peuple de la part de Dieu. Quelle est cette nation dont les dieux soient aussi proches qu'est notre Dieu? Cette nation, c'est d'abord Israël. Le livre du Deutéronome, quelques siècles seulement avant Jésus, rappelait au peuple les cadeaux immenses et répétés de Dieu, que Dieu lui avait fait, le don de la liberté, le don de la terre, mais aussi le don de la loi pour vivre heureux sur cette terre. Cette terre d'Israël, faite pour le bonheur, pas pour la division et la haine, pas pour le gâchis. Jésus a parfait cette loi. Il l'a vécue et il l'a menée à son accomplissement. Par lui, cette nation qui a reçu la liberté, la loi, l'Église, cette nation, c'est le peuple de Dieu, qui s'est ouverte à tous les hommes et à tous les pays, qui est devenue une nation extraterritoriale jusqu'aux quatre points cardinaux. Et c'est elle qui porte et qui transmet la loi nouvelle, la vérité de Dieu, la vie des béatitudes, et qui est appelée à vivre et à rappeler à tous le vrai chemin du bonheur. Elle qui invite au nom de Dieu l'humanité entière et toute la création à s'unir dans une maison commune. Oui, cette grande nation, c'est l'Église. Et l'auteur du Deutéronome prophétise : ces commandements seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de toutes les nations, de tous les peuples. Je disais prophétiser parce que il me semble qu'aujourd'hui, une réalisation étonnante et magistrale en même temps de cette sagesse et de cette intelligence est donnée au monde à travers ce petit livre. C'est quoi ? C'est l'encyclique du pape, Laudato si. Ces commandements seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Oui, c'est une intelligence parce que ce texte de François est une synthèse quelque part. Quand on lit ce texte, il y a des notes partout et ces notes, elles reprennent toute la tradition de l'Église, toute son intelligence séculaire. Il cite abondamment les papes Jean-Paul et Benoît, mais toute la tradition aussi. Puis c'est un texte de sagesse car ce n'est pas une intelligence dans les nuages. Cette intelligence s'applique à la réalité concrète dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les défis présents de l'humanité entière qu'elle vient éclairer et elle propose des chemins de vie au cœur de notre réalité. Ça tient la route. Comme le dit parfois notre ami Hervé Covès, notre ami franciscain agronome, désormais j'ai ma feuille de route, j'ai ma boussole. Si ça pouvait être notre feuille de route, notre boussole à tous. Il ne s'agit pas que d'écologie. Ou si, il s'agit que d'écologie. Mais d'une écologie intégrale qui prend tout l'homme dans sa dimension physique, intellectuelle, ses capacités de travail, et puis spirituelle aussi. Et puis toute l'humanité, appelée à vivre la maison commune. Et puis tous ses liens avec toutes les créatures, toute la création, tous les pays ensemble. Voilà, c'est une écologie globale. Oui, c'est jubilatoire de lire ce texte, parce que ça vient réveiller notre foi. Et c'est bien normal d'en parler aujourd'hui, en cette fête des oignons. Et c'est même nécessaire, puisque le pape nous a demandé, le 6 août, que chaque 1er septembre soit désormais la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Nos frères orthodoxes vivent ce 1er septembre depuis des années. Et le pape nous le demande à nous aussi, catholiques maintenant, de vivre chaque 1er septembre une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Puis que ce ne soit pas qu'un jour dans l'année, bien sûr. Voilà. Mais on est invité, on sent bien, sur un nouveau chemin, ou un chemin qui se précise. Si souvent l'Église peine à faire entendre sa voix, à partager sa sagesse, cette sagesse reçue de Dieu à travers les siècles. Puis voilà que, quand est sortie l'encyclique, il nous apparaît qu'elle propose une clé de compréhension et d'action devant la crise écologique, et qu'elle est largement saluée par des grands intellectuels, des sages d'aujourd'hui, par nos hommes politiques aussi. C'est pas mal qu'un texte de l'Église fasse consensus, sauf chez les trop libéraux économiques. Hein. Voilà. Mais sinon, globalement, on peut dire ça passe. Même ça passe bien, et ça donne une direction. Voilà que ces valeurs qui habitent le christianisme, et qui sont souvent mal perçues, font tilt dans la tête des gens, même des dirigeants. Simplement, mais fermement, le pape François nous redit les conséquences de l'oubli ou du rejet de Dieu. C'est bien un peu notre société depuis les Lumières, même si les Lumières ont illuminé d'une autre manière aussi notre histoire. Un rejet ou un oubli de Dieu qui se traduit par la perte de la vocation transcendante de l'homme. L'homme dépasse l'homme. Toute vie est sacrée, du début à la fin. Cet oubli, ce rejet de Dieu et de la valeur transcendante de l'homme amène au désastre que nous connaissons. Le pape nous dit « Quand l'être humain se met au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance. Et tout le reste devient relatif. Cela donne lieu à un style de vie dévié qui engendre d'innombrables dégradations sociales, environnementales et autres. » Oui, quand l'homme se met au centre sans Dieu, il exclut, confisque, privatise, alors que la crise même de l'écologie nous rappelle que tout est lié, tout est interdépendant, tout est solidaire. L'écologie intégrale que nous présente notre pape fait droit à cette solidarité de tout le créé, à cette fraternité nécessaire entre tous les êtres, et rappelle notamment que la nature et les plus petits sont tous deux les victimes principales de notre système économique mondialisé. C'est les pauvres et la création qui pâtissent le plus de nos dérèglements. Frères et sœurs, quel cadeau nous est fait ! Ouvrons-le ! Soyons fiers et heureux que la voix de l'Église soit à ce point entendue et accueillie. Alors sinon, on n'est pas capable de discuter avec les gens parce qu'on l'a lu, ce serait dommage. S'ils ne voient pas dans notre vie quelque chose qui a changé parce qu'on l'a lu, ce serait dommage. Donc le pape, finalement, il nous dit, si vous ne vivez pas ça, vous n'êtes pas chrétien. Je suis dur, mais c'est dur. Bon, après, c'est long, il y a plein de choses. Chacun va y puiser ce qui peut le faire vivre, ce à quoi l'Esprit-Saint l'appelle. Mais voilà, on n'a pas le choix. La création est en danger, elle nous appelle. Et notre foi nous appelle aussi à changer nos modèles de vie pour vivre plus pleinement les relations qui sont les nôtres avec les autres hommes, avec les autres pays, avec les migrants, avec les autres créatures. Je n'ai pas envie d'en dire plus. J'avais encore un petit paragraphe ou l'autre, mais je me dis, le Seigneur dans l'Évangile nous invite à la pureté, à la vraie pureté. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas se laver les mains, comme disent les pharisiens dans l'Évangile. La vraie pureté dans la Bible, c'est pouvoir se rapprocher de Dieu, vivre en proximité avec Dieu. Et Saint Jacques nous dit dans son texte quelque chose qui ne peut que nous bousculer. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Un comportement pur et religieux, nous dit Jacques, c'est pas d'abord d'être là ce matin, même si c'est très, très important et essentiel, puisque nous sommes à la source de cette vie, nous venons puiser à ce Dieu qui nous donne tout, mais il nous donne tout pour que nous puissions à notre tour partager, échanger, être en relation d'amour, comme lui-même est une relation d'amour.